on m'amène donc dans mon bâtiment. Et dans ce bâtiment, la première vue est absolument effroyable. Ça m'a fait penser à une série américaine qui s'appelait Prison Break, la caricature de la prison sud-américaine, et c'était ça, c'est-à-dire on est à la campagne, c'est-à-dire il pleut, les scorpions rentrent dans les bâtiments, des scorpions, des cafards.
Ils sont partis pour des vacances ou pour travailler, mais le retour au pays est devenu très compliqué. Ils sont des milliers de Français à être incarcérés à travers le monde, dans des pays dont ils ne connaissent parfois ni les lois, ni les usages. Déborah et Jean-Louis, deux destins bouleversés par la prison. La première est emprisonnée depuis plus d'un an à l'île Maurice. Le second vient de quitter les geôles cubaines où il purgeait une peine de 15 ans. Que ces détenus soient coupables ou pas, leur combat ou celui de leurs proches m'a touchée. J'ai voulu savoir comment ils trouvent l'énergie d'avancer et comment ils tentent de vivre aujourd'hui.
Je m'appelle Jean-Louis Autré, j'ai été incarcéré pendant 5 ans à Cuba.
Je m'appelle Elisabeth Dangla, ma nièce est incarcérée et condamnée à 17 ans de prison à l'île Maurice.
Comment se battre pour prouver son innocence quand on est à des milliers de kilomètres? Comment agir dans un pays étranger et composer avec une langue que l'on ne connaît pas? Que faire quand les lois de l'autre pays sont très différentes? Déborah a quitté la France pour quelques semaines. Jean-Louis est parti s'installer à l'étranger. Bloqués à l'autre bout du monde, leurs proches vont vivre dans l'angoisse et l'impuissance en attendant leur hypothétique retour. Il est 16h30, l'heure de la sortie des classes. Jean-Louis est en route pour aller chercher son fils à l'école, un moment qu'il ne raterait sous aucun prétexte.
Ça paraît incroyable, mais c'est le vrai plaisir d'attendre mon fils devant l'école, de faire des choses normales.
Coucou. Coucou, mon petit chat.
Des instants de vie qui peuvent sembler banals. Mais pour ce papa, c'est encore un moment privilégié, auquel il s'habitue à peine.
Et donc la maîtresse, elle était contente aujourd'hui? Elle t'a pas fait de remarques? Tu sais ce qu'on va faire? On va aller acheter un petit pain au chocolat. Mais toi, t'aimes pas.
Alors il profite au maximum des instants magiques qu'il a imaginés pendant presque 5 ans, loin de son fils.
Pour moi, aujourd'hui, oui, c'est ça. C'est les petites choses simples qui me font prendre conscience du bonheur de vivre, d'être avec sa famille, de ce qu'on aime, quoi, tout simplement.
Si Jean-Louis a encore du mal à réaliser son bonheur, c'est qu'il n'a pas vécu avec ses proches ces dernières années. Cela ne fait que 2 semaines qu'il est rentré chez lui.
Attention à prendre la poésie par cœur.
Pour ?
Jean-Louis a passé les 20 dernières années de sa vie dans les Caraïbes. Et c'est à Cuba qu'il a rencontré sa nouvelle femme, Yaïma. Et qu'ils ont eu ensemble ce petit garçon de 8 ans.
6, 7, 8.
Pendant 15 ans, Jean-Louis mène une vie paisible sur l'île de Cuba. Il s'occupe de business florissant, aussi bien dans le conseil que dans l'import-export.
On a créé avec mon associé une société d'investissement. Lui a porté le capital, moi je n'étais que le vice-président exécutif de cette société. Très rapidement, on s'est rendu compte que les Cubains ne cherchaient pas d'investisseurs, ils cherchaient des gens qui leur prêtaient de l'argent et qui leur apportaient un peu de savoir-faire, tout simplement. Donc, c'était notre activité. Ensuite, moi, à titre personnel, j'ai monté une petite boîte d'import-export et une agence de voyage parce que c'était mon passé. Pour la passion de la mer, je réparais des bateaux, mais ça, c'était vraiment à titre quasiment de loisir.
Une vie calme et tranquille jusqu'à un certain jour de 2009. Un jour qui, aujourd'hui encore, reste gravé dans sa mémoire.
Un matin, 7 avril 2009, j'embrasse mon épouse, je prends ma voiture, je fais le kilomètre qui me sépare de mon bureau, j'arrive à mon bureau, je prends le café avec mes collaboratrices, tout va bien, on fait le point de la journée, des affaires, de l'actualité en gros de Cuba. Je vois arriver 3 personnes, 3 hommes, qui marchent en triangle d'un pas très décidé vers le... Il y avait un jardin avant l'entrée. Et ils arrivent, TTI, Monsieur Autré, on peut vous parler ? J'ai dit, bien entendu, montez dans mon bureau, je vous en prie. On monte dans le bureau et à ce moment-là, je ferme la porte et il me dit, asseyez-vous à vos bureaux, les mains sur le bureau, vos codes d'ordinateur, vos codes de téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi, ne bougez pas. Non mais attendez, d'accord, vous êtes dans mon bureau, expliquez-moi. Monsieur Autré, ne bougez pas. Arrivent deux autres, ils sont cinq. Arrivent deux autres, ils sont sept. Ne bougez pas, ils prennent les ordinateurs, prennent les téléphones. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Finalement, pour m'arrêter et arrêter mes entreprises, c'est une arrestation qui a mobilisé 65 personnes. Et donc, là, votre vie bascule en 5 minutes. En 5 minutes.
Jean-Louis vient d'être arrêté sans savoir pourquoi. Il est conduit au centre d'investigation de la police cubaine. Pendant plusieurs jours, sa famille n'aura aucune nouvelle de lui.
Romain Nadal, vous êtes porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Comment est-ce que ça se passe lorsque vous apprenez au Quai d'Orsay qu'un ressortissant français est emprisonné à l'étranger ?
Alors en général, c'est plutôt une ambassade ou un consulat général qui est prévenu à la demande d'une personne qui vient d'être arrêtée et placée en détention à l'étranger et qui souhaite bénéficier de la protection consulaire.
Alors qu'est-ce que c'est alors que cette protection consulaire dont vous parlez ?
Alors cette protection, elle est encadrée par le droit international. Il y a une convention, la convention de Vienne, qui a été très largement signée et ratifiée par un très grand nombre d'États dans le monde et qui donne un certain nombre de droits et qui fixe un certain nombre de principes dans l'exercice par les États de la protection consulaire.
Est-ce qu'il y a une procédure type ?
Chaque pays a ses spécificités, nous devons respecter la souveraineté de chaque État. Donc nous ne demandons pas de traitement préférentiel pour nos compatriotes, mais nous souhaitons qu'un certain nombre de droits fondamentaux soient respectés. Donc nous assistons parfois aux audiences devant les tribunaux. Donc nous suivons la procédure judiciaire. Donc droit de visite, suivi de la procédure judiciaire et lien avec la famille lorsque la personne détenue le souhaite.
Est-ce que vous avez des chiffres de nombre de Français emprisonnés à l'étranger ?
Alors le chiffre global des Français détenus à l'étranger, c'est 2200. Et sur ces 2200 personnes détenues à l'étranger, 40% le sont pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Pour nous, toutes les personnes méritent la protection. Et nous nous mobilisons de façon identique et avec le même engagement pour chaque personne, quel que soit le pays concerné.
Jean-Louis ne se rend pas encore compte que c'est un combat de plusieurs années qui s'engage, aussi bien pour lui que pour sa famille. Banlieue ouest de Paris. C'est ici qu'habite Elisabeth avec son fils. Pendant plusieurs années, elle a aussi partagé l'appartement avec sa nièce, Déborah. La jeune femme était venue habiter ici pour suivre une formation dans la ville voisine.
Oui, tu peux aller chercher les lettres et les photos de Déborah ? Merci.
Dans ce classeur, la famille conserve précieusement tous les courriers reçus de la jeune fille. Des courriers et beaucoup de souvenirs. Affranchie depuis la prison pour femmes de l'île Maurice, ses lettres, à l'écriture maladroite, décorées de petits cœurs, sont toutes signées du même prénom, Déborah.
Bonjour ma tata, j'espère que tu vas bien, que tu gardes la forme malgré cette grande déception.
Ma tata, j'espère que tu vas me pardonner pour tout le mal que je t'ai fait.
Ici c'est pas facile, mais on fait avec.
S'il y a quelque chose de bien ici, c'est le temps.
Je suis la plus jeune ici, jamais j'aurais pensé finir aussi bas.
Aujourd'hui encore, je me demande dans quel pétrin. Toi, ton trésor, mon ange, mon amour, je vous aide, que je rentre, que je redémarre. Je pense fort à vous.
Ta nièce, Déborah.
Depuis qu'elle avait accueilli Déborah à la maison, Elisabeth était restée très présente dans la vie de la jeune fille, déscolarisée depuis la troisième. Elle s'inquiétait de ses mauvaises fréquentations et n'avait pas manqué de lui faire savoir.
Dès le départ, si elle m'avait écoutée et qu'elle avait arrêté de traîner avec ces filles-là, peut-être qu'elle ne serait pas rentrée dans un engrenage qui l'aurait emmenée vers des gens peu loyaux et... qui l'ont emmenée là où elle est aujourd'hui, dans ce paradis qui est devenu un enfer.
Au printemps 2012, Elisabeth, ni même personne de la famille, ne s'imagine ce que s'apprête à faire Déborah. Prétextant un départ en vacances avec des amis à l'île Maurice, la jeune femme de 18 ans, sans revenu, qui ne vit déjà plus avec sa famille, prend l'avion précipitamment. Elle vient d'accepter un contrat très dangereux. En échange de vacances tout frais payées, l'une de ses connaissances lui demande de placer dans son sac une quantité importante de Subutex, un produit considéré comme un stupéfiant à l'île Maurice. Le 23 mars 2012, Elisabeth reçoit un coup de fil paniqué de la mère de Déborah. Sa nièce vient d'être interpellée à 10 000 km de chez elle.
J'étais dans le bus, je sortais de mon travail et puis mon téléphone a sonné. C'était ma sœur qui me disait, qui hurlait à l'autre bout du fil en me disant « Déborah s'est fait arrêter à l'île Maurice ». Elle criait, elle était désespérée tellement que je n'ai pas compris sur le moment. Ça a été un chaos total. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Elle a un avocat, on peut lui trouver quelque chose, on peut appeler quelqu'un. Elle m'a dit, non, on ne peut rien faire pour le moment. Donc, c'était un jour qui, je pense, restera gravé dans notre tête longtemps.
À son arrivée à l'aéroport de Plaisance, Déborah a été placée en détention. Les douaniers trouvent 6 090 comprimés de Subutex dans son bagage. Ce produit, utilisé pour le sevrage des héroïnomanes, est considéré en France comme un médicament. Mais sur l'île Maurice, c'est une drogue dont l'usage et le trafic sont durement réprimés. Déborah ne le sait pas encore, mais elle est victime d'un ou plusieurs réseaux bien organisés.
Joseph Bréham, vous êtes avocat, spécialiste du droit international. C'est vous qui défendez Déborah Dangla. Quel est le profil type des victimes ?
C'est généralement des jeunes hommes ou des jeunes femmes, plus souvent des femmes d'ailleurs, perdus en période de post-adolescence ou de crise encore adolescente, et à qui on fait miroiter un ou deux voyages à l'île Maurice, tout frais payé, en gros 15 jours de vacances avec un petit peu d'argent de poche sur place. Voilà.
C'est un réseau qui est important, un trafic important.
Alors les chiffres précis, il n'y a pas eu d'études sur des chiffres précis. Ce qui est certain, c'est qu'on estime à plusieurs centaines de milliers la consommation de tablettes de Subutex sur l'île Maurice par an. Ça veut donc dire, oui, énormément de mules, de structures, d'organisations. Et ça veut donc dire des réseaux transnationaux, internationaux.
Donc Déborah Dangla n'est pas un cas isolé et j'imagine que les autorités sont au courant.
Oui, alors Déborah Dangla n'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs, au moins une dizaine de Français détenus à l'île Maurice pour trafic de Subutex, donc des mules à chaque fois, à des niveaux plus ou moins importants.
Il y a deux types de mules, les personnes qui savent qu'elles transportent des médicaments et les autres.
C'est un produit qui est légal en France, qu'on peut trouver en France, qui est un médicament, pas en vente libre, mais qui est un médicament. En revanche, à Maurice, c'est considéré comme une drogue, comme un produit stupéfiant et qui engendre des peines extrêmement lourdes. Donc que les personnes, que les mules sachent quelque chose, c'est très probable. Qu'elles sachent ce qu'elles transportent et ce qu'elles encourent en le transportant, c'est à mon avis beaucoup moins probable.
En attente d'un procès, Déborah est immédiatement incarcérée. Et elle n'est pas la seule. Beaucoup de jeunes femmes sont utilisées comme des mules pour alimenter le marché mauricien de la drogue. Déborah risque de se faire condamner à une peine de prison très importante. Port de Plaisance, de la Bastille à Paris. De sa passion pour les bateaux, Jean-Louis garde un souvenir amer. C'est en effet à cause de la vente d'un voilier à Cuba que sa vie a basculé.
Au début de l'année 2004, j'ai trouvé un bateau qui était à moitié abandonné sur la marina Hemingway. Et pour essayer d'attirer mon frère vers la Havane, je lui proposais le bateau, il l'a acheté. C'était un bateau qui faisait 15 mètres, un voilier de croisière, bon, qui ne correspondait pas obligatoirement à nos goûts, mais bon, c'était vraiment une très très belle opération parce qu'on a pu le toucher à un très bon prix. Et quelques mois plus tard, des acheteurs français m'ont contacté parce qu'ils recherchaient un bateau à peu près dans ces caractéristiques-là. Et donc, ils se sont intéressés au bateau. Mon frère a décidé d'utiliser ce bateau pendant l'été 2004 et de le revendre après.
Et c'est au mois de juin, à Paris, en compagnie de son frère, que Jean-Louis va rencontrer les acheteurs pour finaliser les conditions de vente du voilier, le Tobago Clipper.
des hommes un peu bedonnants, la soixantaine, très sympathiques. On a parlé bateaux, ils nous ont expliqué qu'ils étaient un groupe d'anciens retraités du bâtiment qui avaient travaillé beaucoup à l'étranger, qui avaient une petite cagnotte à l'étranger et qui voulaient passer quelques jours sur leur bateau un peu en participation et faire de la plongée. On les avait appelés les papis plongeurs.
En septembre à La Havane, Jean-Louis est prêt à conclure la cession du bateau. Mais au moment d'officialiser la vente, les papis plongeurs lui font une étrange proposition.
Au dernier moment, la veille, ils m'ont averti qu'ils payaient non pas une partie en cash, mais qu'ils paieraient en espèces tout le solde du bateau, soit près de 200 000 euros.
200 000 euros, soit 260 000 dollars. Jean-Louis ne peut pas accepter une telle offre. Il prend conseil auprès de son avocat et sa banque cubaine lui demande quelques jours pour vérifier l'origine des fonds.
10 jours après, la banque m'a rappelé en me disant « Écoutez, nous avons fait une enquête sur la société des acheteurs, il n'y a pas de problème, vous pouvez encaisser l'argent et cet argent, vous pouvez le mettre sur les comptes en banque. »
Un an plus tard, en septembre 2005, Jean-Louis découvre sur Internet que son ancien voilier et ses nouveaux propriétaires ont été interceptés en mer avec plusieurs tonnes de cocaïne à bord.
Je me suis aperçu qu'ils venaient d'être arrêtés au large des îles du Cap-Vert avec près de 3 tonnes de cocaïne à bord du bateau. Sur le coup, le choc fut tel que je ne pouvais pas croire que c'était entre guillemets mes papis plongeurs qui s'étaient transformés en trafiquants de drogue.
Jean-Louis ne s'inquiète pas. Le bateau ne lui appartient plus depuis plusieurs années. Ce qu'il ignore, c'est que depuis 2 ans, des policiers cubains le surveillent au plus près.
Et en réalité, de 2007 à 2009, 7 avril 2009, date à laquelle j'étais arrêté, ils m'ont suivi à Cuba, ils ont mis des micros dans mon bureau, ils ont mis des micros dans ma chambre, ils ont mis des micros dans ma salle de réunion, dans ma voiture, partout, partout. Ils ont écouté tous nos téléphones, cellulaires, fixes, etc. Ils nous ont tout écoutés pendant 2 ans. Et ils n'ont rien trouvé.
Mais c'est un vieux mail de 2004 qui va déclencher les poursuites judiciaires. À l'époque, au moment de l'achat du voilier, Jean-Louis a voulu se montrer très persuasif avec l'ancien propriétaire norvégien et lui prouver sa passion de la voile.
À un moment donné, pour lui montrer que je suis quelqu'un de sérieux, je lui explique que j'ai un bateau de 70 pieds. Et je lui mets « I have a 70 pieds astérix catamaran ».« I have a 70 catamaran ». Ça a été traduit par la police française, et là je dis bien la police française et non pas par la police cubaine. Il a 70 catamarans. Un catamaran, c'est 200, 300 000 dollars un bateau. Ils se sont dit, ça y est, jackpot, on tient le gros lot.
Une erreur de traduction qui aura des conséquences terribles. À Paris, les membres de la famille de Jean-Louis sont placés en garde à vue. Rapidement, les enquêteurs français se rendent compte de leur erreur. À Cuba, c'est trop tard. Jean-Louis est arrêté et incarcéré. En 2013, le verdict tombe pour Déborah, la nièce d'Elisabeth. À 19 ans, elle est jugée et écope d'une peine de 17 ans de prison pour trafic de drogue. Une peine encourue lorsque la valeur des stupéfiants transportés dépasse 25 000 euros sur l'île Maurice. Au cours de son procès, elle reconnaît avoir déjà introduit des boîtes de médicaments quelques mois auparavant, en novembre 2011.
Je me dis, non, c'est pas possible, 17 ans, dans combien de temps on va la revoir?
Aujourd'hui, Elisabeth vient voir sa sœur Rebecca, c'est la mère de Déborah. Elle se retrouve pour discuter avec la jeune femme, par webcam, depuis la prison. Rebecca a été très affaiblie par l'arrestation de sa fille. Elle compte beaucoup sur Elisabeth pour l'aider à avancer dans le dossier. Les deux sœurs doivent pourtant se résoudre à observer la situation à distance, impuissante.
On n'a pas vu Déborah depuis le 23 mars 2012, date de son arrestation à l'aéroport de Maurice par la brigade antidrogue. Et que ce soit moi ou l'ensemble de ma famille, même si on avait voulu la voir depuis, l'avocat nous l'a déconseillé, nous disant qu'on ne nous accepterait pas sur le territoire mauricien. Je suis vraiment très très en colère parce que de ne pas pouvoir être là en tant que mère, de pouvoir la rassurer, la voir de visu, lui dire que je suis là et me battre pour elle en étant sur place. Et j'ai vraiment une rage profonde.
Deux fois par mois, la famille a le droit à des rendez-vous internet avec la jeune fille. Une façon pour sa mère de pallier son absence.
Mais disons que Skype, ça me permet de communiquer avec elle, de voir vraiment qu'elle est en bonne santé, et de voir son visage, ses expressions, comme si elle était en face de moi, chose que je ne peux pas voir au téléphone.
Les appels sont gérés par le personnel de la prison. Les créneaux sont serrés et les échanges durent entre 15 et 30 minutes seulement.
Mais comme tu remarques là, les deux dernières fois, mes appels, ils n'ont pas excédé un quart d'heure au lieu de 30.
Il est midi. Depuis plusieurs heures, Elisabeth et sa sœur essaient d'entrer en contact avec Déborah. Une procédure compliquée à laquelle elles ont du mal à s'habituer.
Tu l'as dû créer à lui encore.
Je me connecte, je demande à parler à Déborah. Et là, j'attends leur bon vouloir. Soit ils me répondent qu'il y a déjà quelqu'un et qu'il faut que je patiente. Soit ils vont me dire rien du tout et je vais attendre avec Skype branché jusqu'à temps que la prison appelle. Donc c'est vraiment aléatoire. Comme je vous dis, tout dépend de la personne qui s'occupe de Skype ce jour-là.
C'est eux qui choisissent, en fin de compte. On est tributaire de leur bonne humeur.
Aujourd'hui, malgré le rendez-vous fixé de longue date, Déborah ne se connectera pas depuis le compte de la prison pour femmes de Beaubassin. Aucune explication ne sera apportée aux deux femmes.
C'est frustrant. Parce que il y a un décalage et quand vous êtes là, que vous avez attendu la séance pendant deux semaines et qu'elle ne peut pas se produire, il y a de quoi vraiment, et tout le monde comme moi en pleurait. C'est rageant, c'est très rageant.
Elisabeth aussi a le sentiment de ne rien pouvoir partager avec sa nièce, quel que soit le moyen de communication.
Il n'y a pas d'intimité, voilà. Il n'y a pas d'intimité. Si on veut lui écrire une petite lettre avec des mots d'amour, de la compassion, où on se livre nous-mêmes, on est sûr que de toute façon, elle sera lue.
À force de se rater au téléphone, de voir les lettres et les colis ouverts, les deux femmes imaginent le pire sur les conditions de vie de Déborah.
Donc finalement, l'inquiétude elle est au quotidien parce que quand vous voyez des reportages à la télé, quand vous voyez tout ce qui peut se passer, que ce soit dans les prisons à travers le monde, je me dis c'est mon enfant quoi. Ça se trouve, il lui arrive des choses et que moi je peux pas le savoir et qu'elle ne peut pas me le dire non plus.
Elisabeth et sa sœur désignent clairement les coupables. Pour elles, ce sont les trafiquants. Ceux qui sont à la tête des réseaux et qui ont emmené Déborah loin d'elle. Aujourd'hui, c'est contre eux qu'elle souhaite mener le combat.
C'était une proie facile, Déborah. On a profité d'elle, de sa crédulité, de son jeune âge. Ce qui m'énerve le plus au monde, c'est ces trafiquants qui se servent de gens naïfs, de jeunes filles, de pères de famille, qui les envoient au casse-pipe en leur faisant miroiter la lune et qui, eux, sont tranquillement chez eux, qui ne sont pas inquiétés, pendant que des gens moisissent en prison.
Déborah n'est pas la seule à avoir été piégée. Entre Paris et l'île Maurice, existe un réseau puissant qui mène de plus en plus de mules à la casse-prison. Un réseau que l'on appelle la Subutex Connection. À La Havane, ce 7 avril 2009, la police cubaine fait de l'arrestation de Jean-Louis une véritable démonstration de force. Pour lui, cet instant reste toujours l'un de ses pires souvenirs.
Un des moments le pire, c'est quand on m'a mis des menottes. On m'a mis entre deux gardes, on est rentré dans une Lada de la police, on a roulé à une vitesse absolument folle avec les sirènes hurlantes. Quelque chose de... Humiliant.
Conduit à la prison de Sienaldabo, un centre construit par les policiers est-allemands de la Stasi, il est placé en garde à vue et ne comprend toujours pas pourquoi il est arrêté.
Je pense que quand je suis arrêté, je me suis dit c'est une erreur, il s'est passé quelque chose. À un moment donné, quand on commençait les interrogatoires, parce que je ne savais pas pourquoi, hein, ils m'ont jamais dit, il a fallu 5 jours pour me dire qu'en réalité on suspectait 7 jours, hein, pour suspecter de trafic de drogue international, quoi.
Jean-Louis est confronté à des conditions de détention qu'il n'avait jamais imaginées au centre des techniques d'investigation. Il n'a pas idée du système carcéral dans lequel il vient de tomber.
Les gens qui rentrent à CNL-Labo sont condamnés. C'est comme ça. Donc, j'arrive là-dedans. Toutes les brimades que vous pouvez imaginer pour vous rabaisser, d'accord, les techniques sont des techniques de destruction psychologique. Ils exploitent n'importe quelle faille de votre vie. En gros, c'est une garde à vue avec des moyens invraisemblables. Et c'est une garde à vue. Vous ne savez jamais si elle va durer une semaine, un mois, 2 mois. Et moi, dans mon cas, ça a été long puisque ça a duré 3 mois et demi.
Jean-Louis est finalement accusé de blanchiment d'argent de la drogue. Un matin, sans être prévenu, il est transféré à la Condessa, une prison pour étrangers à 90 km de La Havane, au milieu des champs de canne à sucre.
On m'amène donc dans mon bâtiment. Et dans ce bâtiment, la première vue est absolument effroyable. Ça m'a fait penser à une série américaine qui s'appelait Prison Break, la caricature de la prison sud-américaine. Et c'était ça, c'est-à-dire on est à la campagne, c'est-à-dire il pleut, les scorpions rentrent dans les bâtiments, des scorpions, des cafards, des milliers de mouches.
Jean-Louis va attendre 1 an et demi son procès. Et c'est par hasard, en regardant la télévision dans sa cellule, qu'il découvre le verdict des juges.
Je suis à la prison, les co-détenus m'appellent d'un seul coup, ils me disent « Jean-Louis, regarde la télé, les infos ». Et le présentateur local annonce « Un Français est condamné à 15 ans ». La sentence n'est pas sortie, ils ne sont même pas encore délibérés. C'était une mascarade.
Une nouvelle étape commence pour lui et sa famille. Il faut absolument faire sortir Jean-Louis de prison avant la fin de sa peine.
Daniel Tibi, le 27 septembre 1995, vous êtes arrêté en Équateur par 2 policiers civils. Au départ, c'est un simple contrôle d'immigration. Puis vous êtes accusé à tort de trafic de cocaïne. J'imagine que vous vous souvenez de cet instant comme si c'était hier.
Oui, je faisais mon métier de négociant en pierres précieuses. Je me rendais à un rendez-vous quand j'ai été arrêté. Sur le coup, je n'ai pas réalisé qu'il pouvait y avoir des conséquences aussi dramatiques que celles qui se sont produites.
Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Ça va s'arrêter? C'est un cauchemar?
Oui, on se dit c'est un cauchemar. Oui, c'est un cauchemar et le cauchemar, il prend forme. Et là, je me suis retrouvé dans l'enfer, tout a basculé. J'ai découvert que j'étais pris dans un engrenage qui me semblait complètement surréaliste.
Ça se passe comment?
Il y a un système judiciaire qui est absolument infernal parce qu'il y a de la corruption à tous les niveaux et que pour faire n'importe quoi, il faut payer. Donc quand vous avez été dépouillé de tous vos biens et que vous n'avez plus un sou en poche, les procédures n'avancent pas parce qu'il faut payer pour chaque copie, pour chaque acte, pour tout.
Tout fonctionne avec l'argent? Vous avez acheté la protection d'un prisonnier?
Oui. Au départ, j'ai payé pour ma protection pendant quelques mois et les gens ont commencé à me laisser tranquille.
Alors, dans le livre 900 jours, 900 nuits, dans l'enfer d'une prison équatorienne, vous dites que vous avez demandé à votre femme de vous ramener le code civil de l'Équateur. Mais votre défense, elle s'est effectuée comment?
J'ai étudié le code pénal et le code de procédure pendant des mois et des mois, en relevant tous les articles qui étaient en violation du code de leur propre constitution ou code pénal, et donc de mener les recours nécessaires. Et puis j'ai réussi à trouver un avocat qui était moins corrompu que les autres, mais qui avait besoin quand même que je le paye régulièrement. Et ensuite, au bout d'un an et demi, l'ambassade a commencé à demander des comptes et c'est là où ça s'est accéléré. Le gouvernement français est intervenu et de façon assez efficace et qui a contribué à me faire libérer. Je pense que sinon je serais pas sorti.
Vous évoquez des articles parus dans la presse française, notamment un article du Pèlerin Magazine, titre « On n'oublie pas ». Vous avez connaissance de ces articles dans votre cellule?
Oui. quand l'article est paru, j'étais enfermé, mais ça m'a donné une lueur d'espoir.
Ça fait du bien.
C'est une étoile qui brille dans l'obscurité.
Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux gens qui voyagent dans ces pays étrangers où il y a de la corruption ?
Oui, ne jamais suivre des policiers.
Jean-Louis vient d'être condamné à 15 ans de prison. Ses proches, et plus particulièrement son frère Jean-Pierre, vont créer un comité de soutien à Jean-Louis. En cellule, Déborah, la nièce d'Elisabeth, s'est rapprochée d'une autre jeune fille, Farah Nashi. Farah avait à peu près le même âge qu'elle lorsqu'elle a été arrêtée en décembre 2011 pour les mêmes raisons, trafic de Subutex.
Elles ont noué une relation, je dirais, plus de sœurs, très protectrices. Quand Déborah avait peur la nuit, elle allait dans le lit de Farah. Donc cette relation qui s'est nouée à l'île Maurice s'est nouée aussi en France parce que nous, du coup, nous avons rencontré Samira.
Justement, aujourd'hui, Elisabeth vient voir Samira, la mère de Farah. Les deux femmes sont devenues amies et se voient régulièrement.
Oh là là,
ah oui.
Samira se souvient de sa première rencontre avec la famille de Déborah.
Je me suis sentie beaucoup plus forte, beaucoup plus patiente. Bon, ça m'a vraiment aidée à survivre. Parce que toute seule, c'était très, très difficile. Toute seule, je ne savais pas quoi faire. Je voulais, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas comment et à quelle porte taper.
Pour Elisabeth et Samira, il ne s'agit pas d'accident isolé. Déborah et Farah sont victimes des réseaux organisés qui profitent de la candeur de jeunes filles influençables. Elles décident d'alerter les pouvoirs publics en envoyant une lettre ouverte aux médias sur ce fléau qui semble se développer.
Quand on a rencontré Samira, on avait une idée qu'il y avait un trafic, mais du coup, ce qu'on se doutait, on a pu le dire et l'écrire. D'où est partie notre lettre ouverte où là-dessus, on disait bien qu'elles étaient victimes d'un trafic. Mais il a fallu vraiment cette rencontre pour pouvoir l'affirmer. Mais pour nous, on avait la conviction qu'elles s'étaient fait piéger dès le départ.
L'arme principale de ces deux familles, c'est de continuer à alerter l'opinion publique.
Subutex, quand un jeune qui n'est pas au courant de toute cette histoire, avant, supposons par exemple, quelqu'un lui a proposé la même chose qu'à Farah et Déborah. Et s'il voit ça, un article comme ça, il saura que ce médicament est considéré comme de la drogue dure là-bas. La drogue dure.
On s'est dit qu'à deux familles, on ferait plus de poids vis-à-vis des autorités et vis-à-vis même des gens, l'impact qu'on pouvait toucher auprès des gens en général, que plutôt tout seul. Parce que en fin de compte, on n'en parle pas, on n'en a jamais parlé de ce trafic-là. Et je pense que si on n'est pas plusieurs à le dénoncer, il n'y a pas de poids dans la balance. Donc, on a amassé des choses, on a rencontré des gens. Donc, des fois, on s'est fait claquer la porte au nez, hein, ou on s'est entendu dire qu'elles étaient coupables et que. Voilà. Mais voilà, nous, on dit les choses comme elles sont. Et puis, peut-être qu'en les disant, il y a d'autres jeunes qui ne seront pas piégés et justement, ça évitera que d'autres familles souffrent, comme nous, on souffre à l'heure actuelle aussi.
Ce trafic de stupéfiants que dénoncent Elisabeth et Samira prospère entre Paris et l'île Maurice. Celles qui font le travail de mule, on les appelle les marsans de la mort. Comprenez, les marchands de mort. Mais les familles réfutent cette image. Elles veulent garder un souvenir radieux de leurs enfants. Leurs filles sont avant tout des victimes, selon elles.
Joseph Bréham, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ce type d'affaires ?
En fait, dans ces affaires, il y a plusieurs affaires dans l'affaire. Il y a le dossier de fond, qui généralement est géré par des avocats locaux. Mais ensuite, il y a la deuxième thématique, qui est comment est-ce que l'on fait sortir ensuite la personne de prison ou comment est-ce qu'on la rapatrie en France ? Et ce qui devient compliqué, c'est les relations politiques, puisque c'est une décision purement politique qui est prise entre deux États, plus ou moins balisée par le droit, mais c'est quand même une décision politique. Et souvent, ces personnes sont tributaires d'enjeux internationaux qu'on ne maîtrise pas. sont tributaires d'un contrat qui va être signé, dont on veut qu'il soit signé. Et il y a des libérations miracles et d'autres qui mettent énormément de temps.
Faire appel aux voies politiques et diplomatiques, finalement, c'est indispensable ?
Oui, enfin, il n'est pas possible d'agir sans le soutien de la France sur place. Et d'ailleurs, en fonction de la valeur ou de l'implication des soutiens des consuls locaux, les dossiers peuvent se débloquer plus ou moins facilement et mettre plus ou moins de temps.
Dans ce cas, est-ce que c'est une bonne solution de mobiliser l'opinion publique ?
Oui, très souvent, en tout cas lorsqu'il y a des blocages, un des moyens, c'est effectivement une mobilisation publique forte, avec par exemple des sites de pétitions en ligne. Ce sont des choses qui se font assez souvent. Je sais que par exemple pour Farah et Déborah, je crois qu'on approchait les 20 000 signatures. Ça ne résout pas tout en quelques instants, bien évidemment, mais ça permet, un, aux personnes de se dire qu'elles ne sont pas oubliées, et puis deux, de maintenir un réseau de soutien financier, moraux, intellectuel, et de pression, pour utiliser un terme qui fâche.
Aujourd'hui, Jean-Louis retrouve son frère Jean-Pierre pour faire le point sur les dossiers en cours.
Allez, en route.
Allez.
Très proche de son cadet, Jean-Pierre se souvient parfaitement de la première fois qu'il a revu son frère à Cuba, au début de son incarcération.
Il était détruit, psychologiquement détruit, extrêmement fatigué. Il avait les cheveux qui avaient blanchi en deux mois. Et extrêmement émacié, et voilà, on voyait qu'il était totalement désorienté.
Jean-Pierre est bouleversé par la situation. Et c'est en aîné de la famille qu'il prend en main le destin de son frère en faisant appel à toutes les bonnes volontés.
D'abord, on a commencé à fonctionner avec un cercle de 10 intimes, d'amis intimes, qui avaient des compétences d'avocat, de chef d'entreprise et autres, parce que ça permettait d'avoir des idées. On faisait travailler la boîte à idées.
Jean-Pierre s'implique tellement dans cette mission qu'elle en devient quasiment un travail à plein temps pour lui.
Ça a été un travail énorme. Il y a eu des périodes où alors là, on était même à 120%. Et compte tenu du décalage horaire, ça se terminait souvent à 2h du matin. Je pense qu'en 5 ans, je n'ai pas calculé, mais j'ai dû faire des milliers et des milliers de mails, etc. J'ai eu des notes de téléphone qui se montaient entre 500 et 900 euros certains mois, parce que Cuba, c'est pas loin d'un euro la minute. Et donc, voilà, dans les périodes intenses, il fallait échanger pour essayer de se préparer. Voilà,
donc ça, c'est les dossiers, c'est... Malgré un comité de soutien qui mobilise près de 8000 personnes, le groupe d'intimes comprend que sans appui politique, il sera difficile d'obtenir une libération rapide de Jean-Louis.
On est rentré, sans faire de politique, en contact avec un certain nombre de politiques locaux à Lorient ou à Paris. Donc les politiques sont la clé de voûte du système. Et là, le ministère des Affaires étrangères est la cheville ouvrière. Et l'ambassadeur, en finale, est l'homme qui agit. Voilà, mais ça marche dans ce sens-là et non pas dans l'autre sens.
Ce matin, Jean-Louis, son épouse et son frère Jean-Pierre ont rendez-vous dans le centre de Paris pour une visite à laquelle ils tiennent particulièrement. Pour la première fois depuis sa récente libération, Jean-Louis retrouve une personne qui a joué un rôle très important dans son affaire.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, vous êtes nombreux. Merci,
madame. Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, a pu rencontrer Jean-Louis dans sa prison de la Condessa en 2010.
C'est bon. Ça fait très plaisir de vous voir.
Mais moi aussi.
Très plaisir. On est loin des champs de Cannes, là.
On est loin des champs de Cannes, le vent souffle là-bas. Entrez.
Merci, là. Merci.
C'est la première fois que l'ancien ministre peut revoir tous les membres de la famille enfin réunis.
Je vous vois en super forme, là.
Bah, tout va bien.
Je vous vois en super forme.
Oui, tout va bien. Ça inquiète mes amis et ça désespère mes ennemis.
Parce que M. Dumas a représenté le premier qui vraiment, si j'ose dire, a mouillé sa chemise, s'est investi, a traversé l'Atlantique, a été à La Havane, a rencontré des dirigeants cubains et ça m'a apporté un soutien énorme. Vous n'imaginez pas l'appui moral que représente une visite de cette qualité. Et vous commencez à y croire, vous dites, ça va bouger.
Lors de son séjour, Roland Dumas a rencontré de nombreux responsables cubains, dont le président du Parlement, pour plaider la cause de Jean-Louis.
J'avais compris depuis le début qu'il y avait tout un aspect juridique, judiciaire, comme vous voulez, et donc en s'appuyant sur les relations politiques et diplomatiques, on transposait le dossier purement judiciaire dans un procès de négociation politique. Et puis, petit à petit, à force d'insistance, à force de présence d'esprit, à force de communication, on est arrivé au résultat que vous voyez aujourd'hui.
Jean-Louis accepte un transfèrement et une transposition de sa peine en France. En novembre 2013, il quitte le territoire cubain avec sa femme et son fils. De retour en France, il passe 2 mois dans une prison française. Jean-Louis est libéré le 17 janvier 2014. L'histoire de sa nièce a été comme une révélation pour Elisabeth. Au-delà du combat qu'elle mène pour dénoncer les réseaux, elle pense aussi à tous ceux qui pourraient connaître le même sort que Déborah. Des personnes fragiles qui se mettent parfois en danger sans en saisir les conséquences.
J'ai réalisé, peut-être, qu'il n'y avait pas assez de prévention et qu'il fallait faire de la prévention au niveau des personnes vulnérables, des personnes qui se laisseraient faire miroiter la lune pour juste rendre un petit service qui pourrait leur coûter la vie. Surtout que, bon là, c'est une condamnation à la prison, mais dans certains pays, c'est la condamnation à la peine de mort. Donc je voudrais que ça n'arrive plus.
Et est-ce que c'est arrivé dans les dernières années qu'un Français soit exécuté à l'étranger sans que vous puissiez intervenir ?
Nous faisons le maximum pour que cela n'intervienne pas. La majorité des infractions qui sont commises par les Français à l'étranger relèvent du trafic de stupéfiants. Dans certains pays, ce sont des peines de prison, plus ou moins lourdes, plus ou moins longues. Dans d'autres pays, cela peut aller jusqu'à la peine de mort, selon le code pénal local.
Et quelle est la marge de manœuvre du Quai d'Orsay à l'étranger ?
Tout dépend des cas. Il y a des cas délicats. Nous avons par exemple 8 Français qui sont condamnés à la peine de mort. Pour ces cas-là, qui sont évidemment emblématiques, naturellement, nous faisons toutes les démarches nécessaires pour éviter que cette peine soit exécutée, qu'elle soit commuée, parce que nous souhaitons l'abolition universelle de la peine de mort. Et nous avons engagé, avec Laurent Fabius, une campagne auprès de la communauté internationale pour que les États qui pratiquent encore la peine capitale y renoncent.
Elisabeth et sa famille cherchent maintenant le soutien des plus hautes instances de l'État. Elle attend que le gouvernement français intercède pour faire avancer le dossier des jeunes filles. Là où elle place ses espoirs, notamment, c'est dans la procédure de transfèrement. Un moyen pour les détenus à l'étranger de venir purger une peine aménagée en France.
Au mois de juillet, on a déposé la demande de transfert pour Déborah. Celle de Farah, on a dû attendre la fin de son jugement pour la déposer. Et maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'elle soit là très prochainement avec nous, qu'on puisse rattraper le temps perdu, les Noëls où elles étaient absentes, les anniversaires sans elle. Puis on espère surtout que les promesses de l'Élysée, hein, suite à la dernière lettre qu'on leur a adressée, disant qu'au moment du transfèrement, ils nous porteront appui, ils tiendront leurs paroles et qu'ils nous aideront à ce que nos filles soient de retour parmi nous.
Si le gouvernement français a marqué son soutien auprès de la famille, rien n'a encore été mis en œuvre pour que la jeune femme soit de retour auprès des siens. Emprisonnée à l'étranger. Chaque année, des Français se font arrêter à des milliers de kilomètres de chez eux, laissant derrière eux leur famille et leurs proches désœuvrés. Après 5 années passées en prison, Jean-Louis est libre. Aujourd'hui, il goûte le plaisir de reconstruire sa vie ici en France avec sa femme et son fils. Il cherche un job, sûrement dans l'export, mais il ne veut pas précipiter les choses. Et surtout, Jean-Louis n'oublie pas l'immense dette qu'il a contractée envers tous ceux qui l'ont aidé à sortir de Cuba, surtout son grand frère.
Nous sommes plutôt, pudiques dans la façon d'exprimer les sentiments. Et le rôle d'un grand frère, paraît-il, c'est de protéger son petit frère. Bon, ben voilà. Mais j'aurais fait la même chose pour mon grand frère, donc c'est très fort.
Pour Elisabeth et sa famille, la situation se dessine doucement. Un accord bilatéral existe entre la France et l'île Maurice, qui devrait permettre à Déborah de terminer sa peine dans l'Hexagone, mais sans date de retour encore fixée. Et si Elisabeth reconnaît qu'avec la meilleure volonté du monde, il est parfois difficile de ne pas se décourager, elle veut avant tout penser aux autres parents.
C'est un drame, mais c'est de l'impuissance. Parce que même si on fait des choses, même si on a l'impression de faire des choses, souvent, on se dit, on a cette pensée-là, bah, là, on patauge. Là, il va falloir faire quelque chose. Et je crois que... Je voudrais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre.